Alors ce soir, on reçoit au téléphone Marc Meyassou, qui est réalisateur de Nothing to Hide, qui est un documentaire sur les effets de surveillance de masse sur les individus et sur la société, qui était paru en 2015, mais le sujet est toujours d'actualité.
Et puis on peut voir en plus ce documentaire en ligne d'une manière légale.
Tout à fait.
Mais avant ça, on va vous faire un peu de musique, un peu de musique allemande. Allez, Das Radial.
The other problem with the nothing to fear, nothing to hide debate is that all of us do have something to hide.
Is it like my computer and my cell phone checked?
Yes.
Okay.
Arguing that you don't care about privacy because you have nothing to hide is no different than saying that you don't care about freedom of speech because you have nothing to say.
So because we have data points like every few minutes all night for 2 days in a row, maybe that's his lifestyle.
Collecting data on that scale on everybody in a country presents the opportunity for the government to go really bad.
Dann haben sie mich aber gepackt und weggeschleift hier diesen ganzen Weg.
Il y avait aussi une femme qui me suivait, donc là c'était dans la derrière là dans le pâté de maison.
They want to keep the power, so they want to know what people are doing.
For example, where you were between the 4 a.m. and the 5 a.m.
But you're ultimately using it for social control.
This myth of nothing to hide may turn individuals into perfect subjects of control.
Et oui, vous êtes toujours
toujours sur Fréquence Paris Pluriel avec les oreilles loin du front. Et avant la bande-annonce du film Nothing to Hide, on vous passait un morceau du groupe Das Radial Data Hirt, puisque ce soir, aux oreilles loin du front, on parle
Data. Et on reçoit au téléphone Marc Meyassou. Est-ce que vous m'entendez ?
Entend très bien.
Super, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes le réalisateur de Nothing to Hide, le documentaire dont on vient d'entendre le trailer, qui est sur les effets de surveillance de masse sur l'individu et sur la société. Alors peut-être avant de rentrer sur justement les enjeux autour du rien à cacher, rien à craindre, peut-être pouvez-vous nous expliquer un peu comment ce documentaire est né. Il est franco-allemand, je crois. Et du coup, voilà, qu'est-ce qui est un peu derrière ce projet avant d'attaquer le sujet des enjeux de la data.
Donc en fait, j'ai commencé le projet avec Michaela Gladovic, qui est devenue en fait la chef de production et qui a fait la plus grande partie de la caméra pour le documentaire. Et en fait, on s'est rencontrés en allant à différentes conférences sur la vie privée à Berlin. Il faut savoir que Berlin, c'est une ville qui est très, très, très branchée sur les questions de vie privée, notamment parce que c'est une ville qui a été coupée en deux par le mur de Berlin et qui a connu, toute une partie de la ville a connu la RDA, donc la République démocratique allemande, et qui était donc un régime de surveillance assez impitoyable. Et du coup, Berlin et d'une manière générale l'Allemagne est très 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 pointilleux sur ces questions de vie privée, beaucoup plus qu'en France où on a un petit peu oublié les implications que pouvait avoir la surveillance dans la société. Et donc, en fait, on a commencé à s'intéresser à ça et en fait assez rapidement, on est allé dans des crypto-parties. Donc les crypto-parties, c'est des workshops informels où n'importe qui peut aller avec son ordinateur ou son téléphone portable et commencer à protéger ses données. En fait, c'est animé par des bénévoles qui font ça dans leur temps libre. C'est en général soit des hackers, soit des experts en sécurité informatique ou des gens qui s'intéressent à ces choses-là. Et en fait, moi je me rappelle que ça m'a passionné. J'avais aucune connaissance dans tout ce qui était informatique. Et à l'époque de Snowden, justement, le fait d'avoir aucune connaissance avait fait que j'avais trouvé ça très très déprimant, les révélations Snowden. Mais j'avais l'impression que je pouvais rien y faire parce que j'étais complètement inculte en informatique, je savais pas coder, etc. Et en fait, en allant à ces crypto-parties, à ces workshops le soir, c'est souvent dans des bars ou dans des espaces dédiés, je me suis vraiment plongé là-dedans. Et ensuite, j'ai essayé d'amener des amis, je commençais à en parler autour de moi, etc. Et je me heurtais tout le temps à cet argument de la surveillance. Je suis d'accord que c'est pas bien, mais moi, j'intéresse personne. Ils peuvent regarder, ils trouvent. Enfin voilà, je suis intéressant pour personne, mes données n'intéressent personne, donc ils peuvent regarder, j'ai rien à cacher. Et comme beaucoup de gens, en fait, je pense, quand on s'intéresse un peu à ces questions-là, et à un moment donné, ça devient vraiment assez agaçant et même déprimant d'entendre ce genre de discours. Et donc, du coup, on s'est dit qu'on allait. En fait, au début, on voulait pas forcément faire un documentaire. On voulait qu'il y ait une ressource qui soit disponible sur Internet. On disait plutôt une ressource vidéo, notamment pour pouvoir toucher les jeunes. Et de fil en aiguille, en fait, on n'avait jamais fait de documentaire avant. Et
pour autant, vous avez quand même eu accès à des. Enfin, le documentaire est assez riche et vous avez eu accès à différents personnages, à la fois des militants et des militantes, mais aussi des gens qui œuvraient ou qui travaillaient avant dans ces services de renseignement d'État. Il y a quelques interviews de personnes des États-Unis. Enfin, vous avez eu accès quand même à des personnes assez haut placées et qui connaissaient bien le sujet.
Bah, en fait, moi, je suis journaliste à côté, donc j'ai utilisé un petit peu cette carte-là. et puis dans l'équipe qui travaillait dessus, on était pas mal de journalistes, et dont certains qui avaient déjà fait des reportages pour donc en fait on était à la fois journalistes et on pouvait sortir des noms un petit peu, donc on y allait un peu au bluff au début. Mais c'est vrai qu'en fait on s'était vraiment dit, en fait comme c'est un sujet qui est très 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 dense, on s'était dit il faudrait qu'on ait des gens qui soient vraiment d'une très très bon dans leur sujet, donc un peu des têtes d'affiche dans tous les domaines, et en plus des gens qui soient très bons à l'oral, qui soient captivants à écouter pour tenir en haleine les téléspectateurs. Et je voulais pas du tout faire un documentaire type télé où il y a beaucoup de plans de coupe, et puis il y a beaucoup de voix off, et on laisse que 10 secondes ou 15 secondes maximum à une personne pour s'exprimer. Donc nous on voulait laisser plus de temps, et que ce soit vraiment quelque chose qui soit un petit peu assez dialectique, et voilà, donc on a essayé vraiment de trouver des gens qui non seulement faisaient autorité dans leur domaine, mais qui en plus avaient cette capacité à vraiment intéresser les gens, et je pense que ça a assez bien marché finalement.
C'est effectivement c'est assez dense, et leurs paroles est ultra pédagogique, et effectivement elle se laisse elle est assez haletante. Et puis à l'intérieur de ce documentaire, il y a une expérience aussi qui est extrêmement concrète, puisque pendant 5 semaines, je crois, vous avez tracé sur un volontaire, le pauvre, les données de son ordinateur, enfin les méta, ce que vous appelez les métadonnées. C'est-à-dire que vous n'êtes pas allé dans le détail du contenu de son activité sur le web. Par contre, vous avez surveillé et tracé là où il allait, les URL des sites web divers et variés. Et déjà ça, sur 5 semaines, ça c'est un peu vertigineux. Enfin, l'expérience est assez vertigineuse.
En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a... Là, on a eu énormément de données. On a mis un logiciel espion sur son téléphone. Et au début, en fait, on a cherché des programmeurs qui pourraient nous faire ce logiciel espion. Et en fait, ça allait coûter très très cher. Et finalement, on a réussi à trouver. Il y a des logiciels, notamment il y a des entreprises américaines qui vendent ce qu'on appelle des spyware ou des stalkerware. Les plus performants, par exemple celui qu'on a pris, 100 € par mois, et c'est pour, alors officiellement c'est pour surveiller les enfants et les employés. Ça passe aux États-Unis de surveiller les enfants et les employés.
C'est charmant.
Et en fait, il y a énormément, je suis en train de travailler pas mal là-dessus en ce moment, il y a beaucoup de comment on dit en français, abusive partner, de partenaires violents en fait, qui se servent de ces logiciels, notamment pour fliquer leur copine ou leur femme. Donc il existe en fait des moyens sur Internet ultra intrusifs qui sont capables de pénétrer quand même Facebook Messenger, WhatsApp, Skype et tous les logiciels, toutes les applications qu'on peut avoir sur un smartphone. Et en fait, on s'est servi de ça on a demandé donc à Max Thomas, Mr. X, la victime entre guillemets, de l'expérience, son consentement pour qu'on lui mette ce logiciel sur son téléphone. Et après, sur l'ordinateur, on a en fait seulement pris l'historique de navigation. Et en fait, ce qu'on voulait montrer, c'est... en fait, les métadonnées, c'est un sujet très, très important, parce que très souvent, par exemple, au moment de la loi sur le renseignement, le gouvernement a dit... on va être ultra intrusif, mais par contre, on va prendre que les métadonnées, on ne va pas toucher à vos contenus, donc vous vous inquiétez de rien, votre vie privée est conservée. Et or, les métadonnées, c'est ce qui est en fait le plus intéressant, parce que d'une, ça se forme, on peut les organiser et lire très facilement, très vite, plein de choses en fait sur les métadonnées. Alors que les contenus, il faut faire des analyses de contenus, donc il faut que ce soit une personne qui analyse les contenus, ou il y a des logiciels, mais c'est pas encore assez au point, etc. Alors que là, typiquement, l'exemple qu'on donne souvent, c'est on dit souvent que le contenu peut mentir. Mais les métadonnées ne mentent jamais. Si là, par exemple, je vous appelle en vous disant que je vous appelle de Pologne, par exemple, vous n'aurez aucun moyen de me croire sur le contenu de ce que je vous dis. Par contre, si vous regardez votre, ou si au standard on regarde mon téléphone, on verra qu'il y a un 0049, donc je vous appelle de,
pas de Pologne. Allemagne.
Un autre exemple aussi qu'on donne souvent, c'est une personne qui, à 3 heures du mat, appelle un numéro qui est le numéro d'un psychologue avec une conversation de 25 minutes au-dessus d'un, géolocalisée au-dessus d'un pont. C'est assez facile de voir que cette personne est dans une détresse psychologique et que voilà. Donc en fait, les métadonnées, et on voulait faire la démonstration qu'il n'y avait pas besoin des contenus et que en fait les métadonnées agrégées c'était du super contenu en fait.
C'est effectivement le résultat de l'expérience quand le volontaire, on lui expose en fait les analystes de ces données-là lui exposent un peu tout ce qu'ils ont récupéré et ce qu'ils peuvent en déduire et en fait ils font un portrait robot qui est ultra précis finalement de qui il est en se basant sur là où il a été, le fait qu'il n'ait pas dormi, qu'il était sans doute en boîte de nuit parce qu'il n'a pas passé d'appel entre 2h et 5h. Enfin, c'est le portrait robot du coup lui-même est effaré de la quantité de données qu'il a laissées sans même vraiment s'en rendre compte.
Ouais. Et ouais, et puis par exemple typiquement sur je vais pas trop en dire sur le film, mais c'est vrai que il y a même des choses sur lesquelles on n'a pas été très explicite dans le documentaire pour quand même pas être trop dur avec Mr. X. Mais il y a des choses, par exemple, si vous parliez là de la nuit blanche, en fait, si on regarde bien, c'est ce qu'ils analysent, c'est qu'à un moment donné, son téléphone portable est en mouvement ininterrompu pendant 48 heures. C'est pas 24, c'est 48. Et donc, et qu'ensuite, le téléphone portable se stabilise pendant 11 heures ou 13 heures, je sais plus. Et donc, ils ont conclu qu'il était pendant 48 heures, c'était le week-end, donc 48 heures en boîte.
À sautiller sur le dance floor.
C'est ça. Alors, est-ce qu'on peut tirer comme conclusion que c'est marrant, c'est un jeune fêtard? Mais si on tire la vraie conclusion de ça, est-ce que pourrait tirer, par exemple, une
assurance santé, par exemple.
Voilà, une assurance maladie ou quoi, c'est que c'est pas possible de tenir 48 heures d'affilée sans avoir recours à des substances, à des drogues. Donc, en fait, là, il n'y a aucun contenu, mais les métadonnées disent que il a des comportements, je sais pas si on peut appeler ça des comportements à risque, mais il dort pas pendant 48 heures avec toutes les conséquences que ça peut avoir pour sa santé, et en plus, ça implique quand même d'avoir recours à... Donc il y a quelques trucs comme ça qu'en plus on n'a même pas trop explicité pour pas parce que c'était déjà assez dur pour lui toute l'analyse. Mais pareil, si vous regardez un petit peu en détail l'analyse des géolocalisations la nuit, bah, vous verrez que il est dans d'autres endroits à certains moments que ceux où il devrait être entre 4 et 5 heures du matin. Donc on peut en fait lire un nombre de choses. La géolocalisation, ça doit être une des métadonnées les plus dangereuses parce que c'est celle qui dit tout, c'est celle qui dit quand on se lève le matin, quand on se couche le soir, le mouvement qu'on fait, si on fait de l'exercice. Si on est au chômage, ça se voit tout de suite dans les métadonnées. Si, au contraire, on est débordé, ça se voit. Enfin voilà, c'est les métadonnées et la géolocalisation donnent beaucoup plus de détails que les contenus.
Donc l'un des premiers enjeux, en tout cas la volonté derrière le documentaire, c'est du coup de sensibiliser sur la variété des traces de ce qu'on laisse. Et effectivement, comme vous le disiez, on a l'impression que parce qu'on n'y connaît rien, on sait pas très bien, mais en fait on laisse beaucoup de traces, et ça c'est dangereux. En tout cas, ça peut être exploité de mauvaise façon. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est pas grave et que on a rien à cacher, et en fait l'exemple que vous venez de prendre de cette personne qui potentiellement la conclusion pourrait être il y a des substances derrière, ça démontre bien ce que vous voulez faire avec ce documentaire, qui est tout le monde a quelque chose à cacher en vrai.
Oui. En fait, dans le documentaire, on voulait d'un côté un peu faire de la pédagogie sur tous ces sujets qu'on maîtrise pas très bien, ou assez souvent quand même les gens ont une intuition de ce qui se passe derrière, par exemple, leur téléphone portable, qui est peut-être l'appareil le plus qui rassemble le plus de données, et et après vraiment d'essayer de poser la question de la surveillance et de l'acceptation de la surveillance en s'intéressant particulièrement aux conséquences sociétales, à l'aspect sociétal. En fait, il y a eu un moment au moment du montage où on s'est dit est-ce qu'on s'intéresse plus à l'aspect individuel, c'est-à-dire à ce que pourraient perdre les gens à titre individuel à travers la surveillance, un peu dans une approche moderne et homo economicus utilitariste, mon intérêt bien compris, ou est-ce qu'on essaie de poser la question plus large de qu'est-ce que c'est que de vivre dans une société où potentiellement tout le monde est surveillé. Et on a décidé de s'intéresser plus à ça. Donc en fait, on a l'expérience de surveillance de Mr. X qui traverse tout le documentaire, mais sinon les interviews et les histoires qu'on a privilégiées, c'était quand même vraiment celles qui posaient la question de la question démocratique de la surveillance.
C'est l'ensemble des dérives qui est une autre partie du documentaire, enfin en tout cas qui est aussi une partie essentielle du documentaire, c'est effectivement les dérives de cette surveillance de masse qui sont déjà à l'œuvre. Par exemple, vous citez l'ensemble de la surveillance autour du mouvement de Occupy Wall Street aux États-Unis, où il y a aussi un militant écologiste français.
Joël, qu'on avait reçu sur ce même plateau d'ailleurs.
Qui était reçu ici et qui du coup a été surveillé, dont l'État a conclu des choses à partir de sa surveillance. Et puis le dernier, et qui rebondira avec ce que vous disiez en début, il y a le témoignage d'une personne qui a été sous surveillance par la Stasi et qui du coup est aussi extrêmement alarmant sur le fait que cette dérive, elle arrive et qu'on n'est jamais sûr de ce qui va se passer derrière, quoi.
Ouais. Donc du coup la question c'est le lien entre par exemple sur la Stasi, c'était intéressant parce que elle était activiste à la fois écolo et sur les droits de l'homme en DDR, en RDA, et en fait c'était quasiment un accident, mais les deux autres protagonistes qu'on avait, donc il y avait effectivement Joël Domangeau qui était activiste écolo et qui a été assigné à résidence au moment de la COP21 à Paris, sous couvert d'état d'urgence et de loi de surveillance militaire, la LPM, la loi de programmation militaire qui venait d'être passée. Et de l'autre côté, c'était une chercheuse américaine sur les questions des droits des femmes et notamment les droits des adolescentes dans plusieurs pays à risque en Afrique. Et en fait, c'était intéressant de voir un peu le miroir à 30 ans de différence de ce qui pourrait arriver et ce qui commençait à arriver aux activistes, aux chercheurs aujourd'hui en France et aux États-Unis par rapport à un régime qu'on monte toujours du droit et qu'on dépeint toujours comme l'horreur de l'époque communiste, etc. Et en fait, il y a énormément de similitudes entre les deux. Donc ça, c'était quelque chose en fait dont qu'on n'avait pas vraiment vu au début, quand on avait rencontré notamment cet activiste à l'époque de la Stasi, Vera Lengsfeld, et qui s'est développé en fait à travers dans le documentaire. Et la première partie de votre question, si vous pouvez la répéter.
C'était très bien. C'était autour de cette partie dans le documentaire qui montre les dérives et que on est sûr de rien et que tout peut changer un jour et en tout cas les gouvernements peuvent évoluer et que du coup c'est dangereux à faire, outre le fait qu'on a tous quelque chose à cacher et qu'on n'a pas forcément on a le droit à une forme on a le droit à cette intimité, mais que en plus ça peut être mal interprété comme ça l'a été par la Stasi par exemple et comme ça peut l'être déjà avec l'ensemble des éléments que vous venez de donner sur le militant écologiste Joël qui a été surveillé et assigné. En tout cas c'est une des excuses, vous l'avez très bien dit au début, de l'ensemble des lois qui sont sur ces sujets-là et qui fleurissent sous couvert d'équilibre entre liberté et sécurité, en fait. C'est ouais, très utilisé.
Et puis, donc, ce que vous évoquiez aussi au début avec Occupy Wall Street, et qui est, je pense, ça c'est un des points cruciaux avec évidemment ce qui s'est passé à la COP21 et dans d'autres circonstances, c'est que il y a beaucoup de gens qui posent aujourd'hui la question de savoir est-ce que, par exemple, on serait arrivé à la fin de l'apartheid si on avait eu l'appareil de surveillance actuel. Est-ce que le droit des homosexuels aux États-Unis, en France, etc., aurait pu être possible à ces prémices si on avait eu l'État et tous les mécanismes de surveillance et donc de contrôle social en place. Et ça, je pense que c'est quand même un des points qui est vraiment crucial, c'est que si le pouvoir concentre tous ses outils de surveillance et donc de contrôle, est-ce que on pourra encore faire avancer et faire évoluer la démocratie aujourd'hui et demain comme on a pu la faire évoluer hier? Et ça, je pense que c'est un des points vraiment centrales de la surveillance, la question de la surveillance.
De quoi effectivement s'alarmer et réfléchir. Alors nous qui n'avons pas encore été au crypto-party, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que citoyen et citoyenne? Comment est-ce qu'on peut nous réagir? Parce qu'effectivement, l'argument qui est non mais moi j'ai rien à cacher, j'ai rien à craindre, de toute façon ça n'intéresse personne, il y a un côté de toute façon c'est un peu déjà trop loin, enfin c'est déjà trop mis en place, c'est compliqué, et puis moi j'y connais rien, donc je vois pas ce que je peux faire, comme si la bataille était déjà perdue. Est-ce que à titre de citoyen, et j'ai le sentiment que le documentaire que vous faites, ça veut aussi faire en sorte qu'on puisse s'approprier ce sujet et se défendre. Qu'est-ce qu'on, sans donner peut-être toutes les pistes, parce que j'encourage vraiment tout le monde à regarder le documentaire, mais il y a quand même des choses qu'on peut faire, même si on n'est pas un hacker.
Alors, il y a des choses très faciles à faire au niveau individuel qui sont, par exemple, au niveau du navigateur qu'on utilise, d'arrêter d'utiliser Google Chrome, par exemple, et télécharger Mozilla Firefox, donc le navigateur Firefox, et même idéalement utiliser le navigateur de Tor Browser. Et ça permet non seulement de se protéger soi. Alors en fait, Firefox, c'est un navigateur qui est très respectueux de la vie privée. Donc il va pas donner les informations par défaut aux sites qu'on visite, etc. Donc c'est la référence pour les navigateurs Internet. Mais il a toujours le problème de l'adresse IP. Et comme on disait avant avec la géolocalisation, l'adresse IP, ça traite énormément de ce qu'on fait, de qui on est, de où on est et de ce qu'on fait. Donc par exemple, moi, ce que j'essaie de faire à titre personnel, c'est que j'essaie d'être un maximum sur Tor. Donc Tor, on peut le télécharger sur le site Tor Project. Et le seul truc qui est un petit peu compliqué avec Tor, c'est de se loguer à ses mails ou sur Twitter ou Facebook, etc. Donc moi, en général, je me log sur Firefox et toutes mes navigations ensuite, je les fais sur, j'essaie de les faire sur Tor. Ensuite, en fait, il faut essayer de sortir. Il faut pas nécessairement se dire je vais plus utiliser un seul service de Google parce que c'est compliqué de demander ça aux gens, mais de se dire aujourd'hui, j'utilise Gmail, Google Maps, Google Chrome, Google Docs et YouTube. Et bien, d'essayer de, pour un ou deux de ces services, pour commencer, de trouver une alternative, donc peut-être une adresse mail qui est respectueuse de la vie privée. Donc ça, il y en a pas mal. Il y en a une qui est assez connue et qui est vraiment bien, c'est ProtonMail. Moi, j'en ai une que je connais en Allemagne, Posteo. En France, il doit y en avoir d'autres.
Il y a Nolog en France, par exemple.
Nolog ?
Ouais.
D'accord. Sinon, il y a donc Framasoft. Donc, Framasoft, c'est une association qui promeut le logiciel libre. Eux, ils ont lancé un projet très intéressant en 2015, je crois, s'appelle Dégouglisons Internet, et où ils mettent des alternatives libres, donc du logiciel libre, donc c'est-à-dire que tout le monde libre et open source même, comme on dit. Donc tout le monde peut contribuer à faire progresser les fonctionnalités des logiciels. Et open source, ça veut dire que tout le monde peut vérifier que le code source, donc l'architecture du programme, est respectueuse des droits de l'utilisateur. Et donc c'est toujours gratuit. Et Framasoft donc fait une liste de WeTransfer, qu'est-ce que je peux utiliser
Framadoc. Il y a tous les, en fait, WeTransfer, voilà. Ça correspond à Framadoc, il y a toutes les possibilités.
Framadrop, je crois.
Exactement.
En tout cas, il y a des alternatives.
Voilà, il y a plein d'alternatives qui sont listées. Et ensuite, le mouvement Crypto Party, alors il est très très présent en Allemagne. Il est un peu moins en France, mais nous on a organisé beaucoup de crypto parties en marge des projections. Et il y a quand même pas mal de mouvements de crypto parties dans les grandes villes en région. Nous on connaît un peu à Rennes il y en a, à Toulouse il y en a, à Paris évidemment il y en a. La Quadrature du Net fait des choses. Et ça, je pense que c'est la meilleure forme parce que ça. En plus, ça rapproche les gens et les gens peuvent échanger. Et ça montre qu'on n'est pas tout seul dans cette espèce de galère un peu qu'est l'alternative au GAFA. Et donc voilà, y a un site qui s'appelle cryptoparty.in. Et après, il y a tous les pays. On clique sur le continent, Europe, ensuite sur la France et sur les villes. Et ils ont des comptes Twitter aussi, on peut les contacter via Twitter. Et voilà, il y a aussi beaucoup d'associations du logiciel libre, qui vont pas nécessairement appeler ça une crypto-party, mais qui font aussi pas mal de workshops réguliers, de manière très, très décentralisée.
Et puis votre documentaire est accessible donc sur le net et c'est en copyleft, donc j'imagine que c'est pas anodin comme choix.
Ouais, c'est en Creative Commons non commercial, donc c'est une licence qu'on a choisie ou qui nous permet non seulement on l'a diffusé pendant un an de manière commerciale. Très indépendante et décentralisée, mais quand même de manière commerciale. Et ensuite, depuis septembre, on l'a mis sur Internet. Et par contre, tout ce qui est projection payante, donc les gens doivent nous contacter. Donc on continue de faire des projections en salle, notamment avec la Ligue des droits de l'homme et ATTAC, on en fait pas mal. Et par contre, le film est sur Internet. Et il est en ce moment, donc il est en quatre langues, et là on va en mettre, il a été traduit encore, donc il est en anglais, en français, en allemand, en espagnol, et là il vient d'être traduit en portugais et en italien, et on doit recevoir aussi la traduction en japonais et en polonais.
Donc sacré voyage.
Et tout le monde peut le télécharger, mais voilà, et même l'envoyer à des amis à l'étranger. Dans 8 langues.
Ok. Eh bien, merci beaucoup. On va vous laisser retourner à votre soirée allemande. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et de nous avoir alerté sur ces sujets. On rappellera tout à l'heure l'adresse du documentaire et le titre pour que nos très nombreux et nombreuses auditeurs et auditrices puissent le regarder. Mais en tout cas, bravo. Et puis peut-être à bientôt pour l'ensemble des autres sujets sur lesquels vous travaillez.
Au revoir.
Okay, merci beaucoup. Au revoir.
Sinon, il est sur Vimeo et sur YouTube.
Parfait.
Et en torrent aussi.
Merci.